fil de l'eau revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux, et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Eh bien bonjour, j'ai pris ma yole, j'ai la godille qui fonctionne bien et sur un rivage, j'ai trouvé un personnage. Alors ce personnage est surprenant. Il se nomme Ivan
Tsepleyev.
Tsepleyev. On pourrait être dans les côtes de Russie, on n'en sait rien. Quel mois de naissance ?
Le mois de mars.
Quelle année ?
1960.
Un jeune homme. Profession ?
Retraité maintenant.
Passion ?
Oula ! Multiple.
Mais il est modeste. Je vais le taquiner. Les éléphants étaient-ils au Mont-Saint-Odile ? Là, je l'enrage.
Ouh là là, les éléphants déjà au Mont-Saint-Odile, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout.
La vie de pirate, c'est le moment.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate. Quand on est pirate, pas besoin de cravate.
Eh ben nous y voilà, tu vois, vie de pirate. Alors je sais, je te taquine, Yvan, et pourtant dans les répétitions, tu m'avais dit « Surtout ne dis pas les éléphants !» Mais bon, c'est tellement beau ce rêve. Mais alors, on change. Je sais que tu es un passionné du mur païen, tu vas en parler longuement, mais y avait-il de l'eau au mur païen ?
Alors c'est sans doute une des choses dont les archéologues et les historiens, ça les interrogeait, c'était effectivement qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau sur le site du mur païen pour pouvoir subvenir aux besoins de grandes armées éventuelles ou en tout cas d'une population importante. Il n'y avait pas beaucoup de sources. Par contre, ce qu'on a pu découvrir, ce qui a été découvert du coup plus tard, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de citernes. Ça...
Et ces citernes étaient alimentées par...
Alors, on sait que les citernes, dans beaucoup de régions dans le monde, hein, même dans des régions plutôt désertiques, étaient très utiles et permettaient à la population de pouvoir subvenir à leurs besoins en eau.
Alors, est-ce que c'était l'eau de pluie ou des eaux de source qui alimentaient ces citernes ? Parce que c'est le grand mystère.
Il semblerait qu'il n'y ait qu'une source au Mont-Saint-Odile, c'est la source Saint-Jean, qui est depuis Tari, mais en dehors de ça, elles sont plutôt à l'extérieur du Mont-Saint-Odile. Et si on considère que le mur païen était une enceinte de protection ou de défense ou quoi que ce soit, ça voudrait dire qu'il n'y a pas suffisamment d'eau à l'intérieur. Donc les citernes devaient être remplies par les pluies éventuelles. Mais il ne faut pas se tromper, on est quand même en Alsace, on n'est pas dans un pays désertique.
Je te sens prudent sur ce sujet, les citernes. Je vois que tu touches pas à pas, mais on dirait une démarche d'un pas d'un pachyderme. Je ne l'ai point dit.
Oui, je fais toujours très attention de ne pas dire de bêtises, déjà d'une part, et d'essayer d'aller chercher les informations les plus réelles et factuelles, surtout des choses qui sont concrètes, qu'on peut voir, qu'on peut trouver dans les archives, etc. Donc le tout, c'est de ne pas apporter de fausses informations.
Alors, ce mur païen, la distance de ce mur ?
À la distance, c'est une enceinte qui fait 10,5 km quand même, hein, de long, qui devait faire à peu près 3 mètres, 3,50 mètres de haut. et surtout qui est construite avec des pierres sèches, à peu près 300 000 blocs quand même, hein, et des pierres sèches qui, donc sans liant, hein, ça veut dire, qui pèsent à peu près pour chaque pierre dans les 300-400 kilos quand même, hein, c'est très important. Mais surtout, sa caractéristique, une des plus importantes, c'est que les pierres sont jointes entre elles par un système qu'on appelle le système de tenons et mortaises en queue d'aronde. Alors je rappelle que la queue d'aronde, aronde veut dire hirondelle en ancien français. Donc ça veut dire que ce sont des tenons et mortaises en queue d'hirondelle. Voilà, ça permettait de joindre les pierres entre elles pour éviter qu'elles se désolidarisent en cas de tremblement, de choses comme ça, ou d'attaque, etc.
Alors écoute, bien sûr les Celtes n'avaient pas des constructions en pierre, et on y reviendra, mais il a été monté sur un espace bien précis. Et ça, tu m'avais subjugué quand tu m'avais parlé que l'implantation du mur était faite par rapport à un lieu géographique qui suivait des courbes. Et là, je sais que tu vas tout expliquer.
Alors oui, c'est aussi une de ses particularités. On peut voir directement lorsqu'on trace, quand on fait le tracé du mur païen sur le socle du Mont Saint-Odile, hein, sur le Poudingue, on s'aperçoit qu'il est posé exactement, mais exactement sur le bord du Poudingue du Mont Saint-Odile. Ça veut dire que lorsque vous mettez la carte géologique sur le tracé du mur païen, c'est vraiment, on a l'impression que les géologues de l'époque avaient bien compris qu'il fallait poser les premières pierres sur le Poudingue et non pas à côté. Sinon, elles auraient été vite défaites, on va dire.
C'est quoi le Poudingue ?
Le Poudingue, c'est une formation géologique qu'on appelle le Poudingue. C'est pas du grès, hein. Le grès, c'est encore autre chose. Mais le mur a été construit en grès et sur le Poudingue. C'est une formation avec des cailloux dedans. C'est un agglomérat, on va dire, de
temps pierres. Anciens.
Voilà. Des temps anciens, très, 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 très anciens.
Quand la mer était présente et elle avait envahi et que le Mont Saint-Odile n'était que les fonds d'un immense océan.
Absolument.
Josy Jaspeline, c'est très bon là. Maintenant, on va écouter ta chanson parce que je te sens en stress et là, il faut absolument. Et elle va me rappeler plein de souvenirs, cette chanson. En 1969. C'était la Révolution. Une année après 68. T'avais quel âge en 69 ?
J'avais 8 ans.
Tu te rends compte, moi j'étais embarqué déjà sur un bateau, un automoteur qui s'appelait le Fronsac. Et quand on entendait ça, devant dans le roof, avec le Milita Café et le Rhum Negrita, on était des pirates.
What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel and you're through. Oh, 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 oh. I sit there. Count, oh, count your little fingers, my unhappy. Oh, little girl blue. Thank you.
sit right back down. I want you to count, ooh, count your fingers on my unhappy, my unlucky, and my little old girl blue.
C'est magnifique, Janis Joplin, 1969. Et en 1969, Armstrong marquait les premiers pas sur la Lune. Waouh, toute une époque. Mais là, on va revenir, combien de temps en arrière? 300 ans avant Jésus-Christ?
À peu près 300 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est sans doute ce qu'on peut supposer maintenant. Par rapport aux recherches qui ont été faites sur la possibilité de construction de ce mur, oui.
Alors, bon, on arrête les éléphants, on arrête toutes les conneries, on va parler sérieusement. Explique-nous pourquoi on suppose que les Carthaginois avaient pu envoyer des ambassadeurs en haut du mont Saint-Odile.
Eh bien, en fait, si on parle du 3e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas 36 000 possibilités d'invasion ou de passage d'armées en Gaule. Il y en avait pour le coup peut-être deux, les Cimbres et les Teutons, mais c'était en moins 100 avant Jésus. Et surtout, la plus importante, qui avait un intérêt et un alibi très important de venir en Gaule, eh bien, c'est Hannibal Barca, avec 37 éléphants effectivement, et ses armées de Carthage, qui sont passées en Gaule pour venir envahir l'Italie et essayer de prendre Rome.
Alors, et tu peux m'expliquer quel était... Bon, on savait que l'Antiquité et le côté grec étaient très en guerre contre Rome, ça on le sait, mais ils avaient une stratégie bien particulière de séduction, d'ambassadeurs et d'échange de la connaissance, car la valeur absolue de l'argent n'existait pas, mais c'était l'échange de la connaissance qui faisait valeur de partage et de valeur pour négocier avec des peuples qu'on ne connaissait pas.
Oui, alors les armées de Carthage à l'époque avaient un intérêt absolu de pouvoir aller en Italie et de reprendre ses droits. Les droits, c'était simplement de pouvoir récupérer la Corse, la Sardaigne, la Sicile. Et donc, ils ne pouvaient plus le faire par la mer parce qu'ils avaient déjà été battus par les armées romaines en 241 avant Jésus. Et les Romains ne voulaient plus qu'ils utilisent leurs bateaux pour venir par la mer. Donc, ils sont passés par l'Espagne. Et l'Espagne était intéressante parce que l'Espagne possédait les mines d'argent, des mines de fer énormément, ce qui a permis à Carthage de récupérer ses richesses et ensuite d'avoir les possibilités de réenvahir l'Italie pour récupérer tout ça, mais en passant par la terre, c'est-à-dire en passant par les Pyrénées, par les Alpes, etc. Mais pour y aller, il y avait un intérêt absolu, c'était d'abord de savoir, en Gaule, s'il y avait des Gaulois qui étaient pour ou contre Rome. Ça permettait d'avoir des alliés ou non. Et pour le coup, avant d'aller de faire cette invasion par les Alpes, ils ont été partout en Gaule pour savoir, et donc ils ont pu comprendre que un des peuples gaulois les plus éloignés et les plus contre Rome, c'était effectivement la Gaule-Belgique, donc les Médiomatriques en Alsace.
Alors les Médiomatriques en Alsace, ça c'est tout un sujet, mais je pense qu'on ne va pas ouvrir le livre là, je te réinviterai pour cela, parce que ça c'est tellement fabuleux que je te réinviterai sur ce sujet-là. Par contre, ils avaient une technique d'ambassadeur, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient, à part l'astrologie, la connaissance du fer, des alliages, mais peut-être le fendage des pierres, et peut-être c'est l'explication. Tu peux m'expliquer cela ?
On va dire que, de toute façon, les armées de Carthage bénéficiaient déjà de connaissances absolues en tant que bâtisseurs. Il ne faut pas oublier que c'était un peuple qui venait de l'île de Tyr, donc en pleine Phénicie. Et on sait que les bâtisseurs de Tyr étaient réputés pour être de très grands bâtisseurs, avec de très grandes connaissances. Et lorsqu'ils sont allés vers les Médiomatriques, sans doute en Alsace, enfin c'est en tout cas ce que j'avance, ils avaient de telles possibilités de connaissances comme bâtisseurs que ça pouvait intéresser quand même les Médiomatriques à l'époque.
Alors, ils avaient une technique que tu m'as racontée, que j'aimerais bien que les auditeurs de Radio Judaïca prennent connaissance. C'est comment ils pouvaient fendre ces blocs de bière, ces blocs de pierre, comment ils pouvaient les fendre Et la technique était très particulière et elle a été répétée. Et je l'ai testée et elle fonctionne.
Alors, c'est la technique pour fendre la pierre, c'est-à-dire déjà on repère le conglomérat. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Pouningue, mais on appelle ça aussi le conglomérat. On sait que ce sont des couches et pour le coup, on essaye de scier une partie et ensuite de mettre des coins de bois dans des trous qu'on va former. Et à partir de là, soit de mettre de l'eau, puisqu'il peut y avoir de l'eau à ce niveau-là, ou alors avec du vinaigre en chauffant la pierre. Et ça, effectivement, sont des techniques avérées de l'Antiquité qui permettaient l'extraction de gros blocs de pierre.
Alors moi, j'ai fait l'expérience. J'ai chauffé du grès dans un feu. Je n'ai pas fait les coins, parce que c'était une technique du Moyen-Âge que j'ai revue, et j'ai certaines carrières près de Rosheim qui n'existent pas très loin du mur, bien sûr, païen. Et effectivement, quand on met un filet de vinaigre sur cette pierre chaude, un filet de vinaigre, et qu'on donne un coup sec, la pierre se désintègre d'une façon plate. C'est incroyable. C'est assez surprenant. Alors, c'était ça leur échange. Ils avaient d'autres techniques. Ils avaient d'autres.
Alors, il y a une technique avérée. C'est une technique de positionnement des pierres qu'on appelle emboutisse. Et qui est assez particulière et qui permettent justement de repérer que ces caractéristiques de construction de murs correspondent à un endroit du monde qui pourrait être plutôt le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient de la Perse, à peu près du 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, on voit pas mal de choses de ce côté-là, la Syrie, le Liban surtout, Sidon, Tyr, et puis on repasse par le dessous, par l'Égypte, etc., pour remonter. Et ça va jusqu'au 1er siècle, et surtout on trouve ces techniques qui vont être diffusées à Carthage aussi, donc, puisque ce sont les héritiers de Tyr.
Alors la belle Carthage, et je crois que tu as choisi une belle image par rapport à Carthage la Belle.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel?
Le choix de cette chanson, c'est par rapport à Elisa?
Oui, Elisa de Tyr, bien sûr. Ça parle d'amour, ça parle de construction mégalithique, ça parle de tas de choses comme ça. Sidon, Elisa de Tyr, c'est la femme qui est partie de l'île de Tyr pour aller fonder une ville importante, Carthage, la Carthage de Tunisie. Donc voilà, c'était un petit peu une relation par rapport à cette chanson. Et une très belle chanson, d'ailleurs.
Mon ami, les Celtes de l'époque construisaient leur défense en haut des monts, des sommets. Ils profitaient de la configuration des roches qui existaient et ils mettaient des palissades. Donc, on peut dire que le mur païen est tout à fait différent par rapport à cela, et ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge.
Non, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. Les palissades, en fait, on n'a pas trop trouvé de... Enfin, il semblerait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses pour vérifier qu'il y avait encore des palissades au-dessus. Mais on peut l'imaginer quand même. Hein. C'était des murs qui montaient à 3,50 m, 4 m, qui étaient aidés d'ailleurs par des roches naturelles. Hein.
quand tu as revu le mur païen, il n'y a pas qu'un mur païen.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment déterminant hein, dans les recherches que j'ai pu faire à propos de ce mur païen. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un mur païen au Mont-Saint-Odile, il y en a deux. Il y a un mur païen aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est au Frankenbourg. Pourquoi c'est important? C'est simplement parce que s'il y a deux murs païens construits exactement de la même manière, hein, les caractéristiques sont vraiment identiques, on peut considérer que c'est donc le même bâtisseur et donc le même peuple.
Mais alors, le Tenchel?
Ah oui, alors, il y a encore un mur païen qui s'appelle le Tenchel, qui se trouve, lui, à peu près à la hauteur du Haut-Königsbourg, hein, qui se trouve justement juste en face du Frankenbourg. Mais alors, celui-là n'est pas construit du tout de la même manière. Donc, on peut considérer que c'est un autre peuple, que ce n'est pas le peuple bâtisseur du Frankenbourg et du Mont-Saint-Odile.
Alors, je reviens sur les palissades. On sait que les Celtes ne mettaient pas les pierres les unes sur les autres. Ça a été la grande innovation, en fin de compte, de cet apport carthaginois. Mais ils avaient une construction plutôt à partir de palissades. Ils prenaient des roches, les configurations, et ils mettaient des bois dressés ou couchés pour se défendre par rapport à cela. Toi, tu sais, on sait que, par exemple, à Rosheim, l'époque rubanée, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, où il y a des Celtes qui sont devenus sédentaires, qui étaient en bas, qui sont montés. Voilà, il y a le Molberg, on peut citer, parce qu'il y a plein d'endroits très riches dans la région. Quels étaient les peuples qu'il y avait pour toi à l'époque?
Alors, à l'époque, en Alsace, il y avait plusieurs peuples, notamment un des plus importants pour moi en Alsace, ça va être les médiomatriques, puisqu'il va être sur le territoire du Frankenbourg et du Mont-Saint-Odile. À côté d'eux, il y avait les Leucs, qui seraient plutôt du côté de Saint-Dié. Et en dessous, il y avait un autre peuple qui s'appelle les Séquanes, qui, lui, était un peuple assez immense, hein, puisqu'il allait jusqu'à la Saône du côté des Éduins, là-bas, dont la capitale était Besançon. Si on revient aux médiomatriques, c'était aussi un grand territoire, puisque leur capitale, c'était Divodorum, qui était l'actuel Metz aujourd'hui. Metz, pardon, on ne dit pas Metz, on dit Metz.
Alors, ce peuple avait des richesses multiples et des connaissances multiples. Qu'est-ce qu'ils avaient, la maîtrise du fer et du bronze, de la poterie, d'un ensemble de choses? Et tu penses que les Carthaginois leur ont apporté vraiment cette culture de la pierre?
Bon, ils avaient déjà une bonne culture, je pense, hein, les médiomatriques. Hein. Par contre, on ne retrouve absolument pas le même type de construction du Frankenbourg et du Mont-Saint-Odile. Ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'effectivement, les Carthaginois, on peut faire une alliance avec eux pour combattre Rome, parce qu'on savait qu'à l'époque, les médiomatriques, c'était la Gaule-Belgique qui était contre Rome.
Mais contre Rome, mais c'était un stratège quand même, Hannibal. C'était un grand gars, il avait inventé plein de stratégies de guerre.
C'était un très très grand stratège qui est encore aujourd'hui enseigné dans les écoles militaires, enfin de ce que j'entends. Hein. Et effectivement, il a un peu révolutionné la manière de se battre. Il avait les capacités d'utiliser toutes les possibilités de stratèges qu'on connaît aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein.
Dont l'embuscade. Qui était sa spécialité.
La propagande aussi.
La perforation avec ses éléphants. Ouais.
L'espionnage.
L'ensemble, Poutine, il n'a rien inventé. Hein.
On dit même que parfois Hannibal arrivait à se déguiser pour aller dans ses troupes, pour pouvoir sentir un peu ses troupes. Voilà, on dit maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut peut-être aller un peu plus loin dans les recherches. Ouais.
Alors, mon ami, le temps s'écoule. C'est tellement passionnant qu'on a juste effleuré le sujet. Je me permettrai de te réinviter, certainement au mois d'octobre ou au mois de novembre, on verra tes possibilités, car on va rentrer un peu plus en profondeur dans ces histoires-là. Le dernier mot que tu aurais à dire, tu as une dévotion pour Hannibal?
En fait, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. si j'ai eu cette passion, en fait, c'est quand je suis tombé sur cette construction, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez mystérieux, et ça, j'aime le mystère, en fait, doit s'expliquer quelque part. Et j'ai la conviction d'être tombé sur quelque chose qui n'était pas connu. Et donc, quand j'ai recherché, je suis tombé sur Hannibal. C'est pas l'inverse. C'est pas en étant amoureux d'Hannibal que j'ai trouvé la construction. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé, ce qui donne toute sa valeur à cette recherche.
Comme notre rencontre au bord de l'eau, où je t'ai croisé d'une certaine façon. Et incroyable. Alors, la fin de l'émission s'annonce. Bien sûr, Yvan, je te réinviterai, parce que c'est tellement passionnant. Les 30 minutes en sont passées comme ça. Ça a glissé comme au bord de l'eau. J'aurai plaisir de te rencontrer très prochainement. La personne qui va venir te remplacer dans quelques temps pour la prochaine émission, c'est Pascal Papillon dit Butterfly.
Et on ne les voit jamais.
Tout un poème. Maintenant, on va basculer dans autre chose. Merci et à lundi prochain.
Personne ne connaît la chanson du marinier, martelée au rythme d'un moteur régulier. Un bruit répétitif aux effluves de gasoil. Et ça cogne du cœur jusque dans la cale. À la croisée des usines et des cathédrales, des jours passés à noyer le temps et les paysages. Une mélodie oubliée entre la Seine et l'Oise. Chant de batelier, les fleuves, les canaux, les rivières. Chante le refrain oublié du voyageur linéaire. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam, au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme. Vogue la galère et les instants de bonheur, finir les fins de mois, même à la rame, prendre le temps qui s'écoule tout en douceur. Au café du port, ils prennent des nouvelles du mariage de l'un, du décès de l'autre. Revoir son fils qui préfère vivre en ville ou de sa fille qui est restée pensionnaire. Parler de la Somme comme si c'était du Nil. Écluser des verres et tenir bon le comptoir. Un chargement de souvenirs bien ancrés. En avoir plein la tête et plein la cabine. Remonter à bord et vaille que vaille. Garder le cap et tenir bon le gouvernail. Chante batelier, la chanson anonyme du canal. Chante le refrain de la galère sans manivoile. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam. Au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme. Vogue la galère et les instants de bonheur. Finir les fins de mois, même à la rame. Prendre le temps qui s'écoule, tout en douceur.